dans leurs défis les plus complexes. Ensemble, relevons les vôtres. Partenaire de l'Édito Éco, Valtus façonne vos succès partout dans le monde.
C'est ça, c'est le nouveau Citroën C3 Aircross. Il est beau, hein? Et pour hiberner avec vos oursons, on passe facilement de 5 à 7 places. Oui, bah c'est vrai que c'est pratique, hein.
Pour les amoureux de grands espaces et de confort, nouveau Citroën C3 Aircross à partir de 19 700 euros. Également disponible en électrique et hybride. Découvrez-le pendant les portes ouvertes du 13 au 16 juin.
Citroën. Tarif conseillé à particulier jusqu'au 30 juin pour l'achat d'un nouveau C3 Aircross U hors option. Détails sur citroën.fr selon réseau participant. Pensez à covoiturer.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie sûreté. Et c'est sur bougardier.fr.
Vous écoutez Radio Classique, il est 9h.
Les informations, Augustin Lefebvre.
Aux États-Unis, les manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump s'étendent. Après Los Angeles, c'est la ville de Spokane, dans l'état de Washington, qui a décidé d'instaurer un couvre-feu. Hier soir, le président a assuré qu'il ne laisserait jamais la loi de la rue régner en Amérique. Une audience judiciaire doit se tenir aujourd'hui pour déterminer la légalité du déploiement de la garde nationale en Californie. À l'Assemblée nationale, l'audition des représentants de TikTok est en train de commencer dans le cadre d'une commission d'enquête. Il s'agit de déterminer l'éventuelle influence néfaste du réseau social sur les mineurs. Audition alors que la France veut interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans après qu'une surveillante a été tuée par un collégien à Nogent mardi. Collégien qui utilisait lui-même peu les réseaux sociaux. Une minute de silence doit être observée à midi dans tous les établissements scolaires. Et puis, journée de manifestation des archéologues. Aujourd'hui, ils entendent protester contre ce qu'ils qualifient de pire coupe budgétaire depuis 20 ans, mais aussi contre une modification des règles pour les fouilles archéologiques préventives qui permettrait plus d'exemptions. Cela passerait par un amendement à la loi de simplification de la vie économique qui est actuellement examinée à l'Assemblée.
Suivez le Point Bourse avec Bourse Direct, le partenaire de tous vos placements. Bourse, assurance vie, épargne.
Et on retrouve Céline Pentex d'Investir. Bonjour Céline, quelle est la tendance à l'ouverture ?
Bonjour Augustin, eh bien c'est du rouge à Paris, comme hier, hein, moins 0,5% à l'ouverture sur le CAC 40, 7 740 points. Le soulagement après l'accord cadre conclu entre Pékin et Washington sur les droits de douane a été de courte durée. D'une part parce que certains points restent en suspens, notamment à l'accès de Pékin aux technologies américaines de pointe. D'autre part parce que Donald Trump est rapidement revenu à ses fondamentaux, à savoir la menace. Il a promis l'envoi d'ici à 2 semaines de courriers aux partenaires commerciaux des États-Unis dans lesquels il exposerait tout simplement les conditions des accords douaniers, une sorte de apprendre ou à laisser. Et le compte à rebours est déjà lancé dans moins d'un mois. Le moratoire douanier avec des dizaines de pays arrivera à expiration. Alors à l'agenda, on prendra connaissance aujourd'hui des prix à la production en mai aux États-Unis. Sont-ils restés imperméables à ces fameux droits de douane? En tout cas, ceux à la consommation dévoilés hier l'ont été. L'inflation globale est ressortie sous les attentes pour le quatrième mois d'affilée à 2,4%. Et puis rapidement, du côté des valeurs, le conseil scientifique d'Euronext passe en revue aujourd'hui les grands indices boursiers, en particulier la composition du CAC 40, alors qui sera écarté, qui sera intégré dans l'indice de dette parisien. Eh bien, il faudra patienter jusqu'à la clôture du marché pour le savoir. Pour finir, je vous rappelle le CAC. À l'ouverture, une baisse, hein, moins 0,5% à 7 740 points.
Merci Céline, Céline Pentex. Il est 9h03, c'est l'heure de retrouver Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Augustin, bonjour à tous. Alors, je m'étais posé la question, pour tout vous dire, de demander à la patrouille de France de faire un petit passage là, juste au-dessus, avec ses panaches tricolores, mais... Je me suis dit qu'après tout, nous faisions de la radio, que ça ferait plus de bruit qu'autre chose et qu'on pouvait peut-être s'en passer. Voici donc, sans la patrouille de France, la patrouille de France.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes à l'aérodrome de Maison-Blanche, on n'est pas très loin d'Alger, à quelques kilomètres à l'est d'Alger, le 17 mai 1953. Imaginez l'émulation, pas moins de 50 000 personnes, je dis bien, ont fait le déplacement jusqu'à ce terrain d'aviation pour assister. Et un grand nombre de ceux qui sont là dans le public vont assister à ça pour la première fois, un show aérien. Ce jour-là sont réunis les meilleures patrouilles acrobatiques du monde, notamment les Américains, les Skyblazers, hein, très célèbres, qui sont au rendez-vous. Ils sont les As, eux, depuis des années, dominant de la tête et des épaules toutes les manifestations européennes, et ce, même sur les terrains d'aviation d'Europe même. Parfois, ils sont classés hors concours, tellement leur niveau est impressionnant. Et bon, les autres ont un peu de mal. Les Anglais, les Italiens, qui quand même sont doués, ils arrivent à rivaliser avec les pilotes américains. Ce jour-là, le public, un tantinet chauvin, l'Algérie à l'époque est encore l'Algérie française, hein, bien sûr, ce sont des départements français, le public attend de pied ferme une autre patrouille, celle des pilotes de combat de la 3e escadre de chasse, c'est l'escadre de Reims. J'ai eu l'occasion de bien connaître toutes ces escadres quand je travaillais pour le ministère de la Défense au service de l'histoire de l'armée de l'air. Et croyez-moi, à Reims, on a une idée très précise de toute cette belle histoire. À la tête de la 3e escadre, le commandant Pierre de Lachenal, qui avec ses 3 coéquipiers a traversé la Méditerranée. Ils sont arrivés sur des Thunder Jets, c'est un avion de chasse à réaction qui en fait a été cédé par les États-Unis au titre de l'aide militaire en faveur des pays membres de l'Alliance Atlantique. N'oubliez pas qu'on est en 53 et qu'à l'époque, évidemment, on n'a pas encore eu le temps de reconstituer une véritable armée de l'air en France. De Lachenal et ses 3 équipiers ont participé un an auparavant au meeting de Lyon. Ils n'ont eu que 15 jours cette fois pour se préparer. Évidemment, à l'époque, ils ont fait plutôt pâle figure face au Sky Blazer. Le commandant a été un petit peu frustré, mais il s'est dit qu'on devait pouvoir faire mieux.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et alors, pendant un an, là, cette fois, il s'est entraîné. L'état-major, c'est vrai, lui a donné carte blanche. L'armée de l'air a passé un contrat moral avec son équipe, représenter la France avec panache et avec dignité. Il ne faudrait peut-être pas oublier que le premier avion a décollé en France, quand même. Enfin, je dis ça pour tous ceux qui, comme moi, pensent que Clément Ader a été plus rapide que les frères Wright. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Bref. Le commandant de Lachenal étudie de près toutes les possibilités que lui offre cet avion américain, là, le Thunderjet. Il scrute le travail des autres patrouilles, bien sûr. Il va peaufiner tout un petit programme pour garantir au public les plus grandes sensations. Sa stratégie, ce sont des virages ultra serré pour permettre aux avions de se présenter le plus souvent possible face au public en volant le plus bas possible, beaucoup plus bas que les autres, pour que le public voit vraiment les carlingues de très près. Ils mettent au point une figure spectaculaire, un éclatement de la formation à la verticale aux 4 points cardinaux. Et ça se fait par 4 retournements simultanés pour aboutir à une espèce de croisement des engins deux par deux avec un décalage de seulement quelques mètres pour donner l'impression d'une percussion entre les avions. L'effet est éblouissant, à condition de le réussir, bien sûr, parce que rares sont les pilotes qui peuvent accomplir une chose pareille. D'ailleurs, c'est bien simple, aux États-Unis, l'état-major a interdit cette figure, tellement elle est considérée comme dangereuse. 17 mai 1953, la foule est ébahie par cette prestation, par ces avions qui jaillissent comme ça en bouquet, en gerbe. Le commentateur qui s'appelle Jacques Nottinger n'en revient pas. Il dit « Formidable patrouille de France !» Eh ben voilà, le nom est lâché. L'armée de l'air va entériner ce nom dès le mois de septembre. Et donc, la patrouille de France est née ce jour-là au soleil d'Alger, devant un public tout conquis et, disons-le, devant des Américains un peu stupéfaits. L'état-major, dans un premier temps, va décider de confier chaque année la responsabilité de cette patrouille acrobatique à une escadre différente. Alors, pour 54, ce sera la 2e escadre de la base de Dijon-Lonvic qui vient d'être équipée des tout premiers avions de chasse à réaction français. Cet avion-là s'appelle l'Ouragan, qui va connaître la consécration en étant produit en très grande série et même exporté dans beaucoup de pays. Voler à bord d'un avion de conception française, évidemment, pour la patrouille de France, ça paraissait une chose utile et bienvenue. Le commandement de la patrouille est confié à Georges Debay, qui est un ex-équipier de Lachenal, justement. Il a donc profité des enseignements de celui qui a, en quelque sorte, inventé la nouvelle façon de faire de l'acrobatie aérienne. Cette patrouille, d'emblée, va être une réussite. En 1954, tout est français. L'Ouragan étincelle dans l'azur des ciels des meetings, nous dit Georges Labbey. À travers la patrouille de France et son matériel national, le public enthousiaste se prend à croire en la résurrection du pays. J'ai cette fierté d'avoir participé au lever de rideau, d'avoir contemplé le soleil du renouveau qui surgissait à l'horizon. Les trois années qui suivent sont celles un peu de la monotonie, il faut bien le dire. À peine l'aventure débutée, qu'il n'y a plus de véritable passion. Bon, l'ouragan a vite été oublié. Lui a succédé dès 54 le Mystère 4, construit par les usines Marcel Dassault, bien sûr. C'est le premier avion de chasse français à passer le mur du son. Et puis, il y a l'année 57 qui secoue cette patrouille un peu endormie. Vous allez voir pourquoi. La chevauchée dans les airs, un extrait du Don Quichotte de Richard Strauss par l'Orchestre Symphonique de Boston, sous la direction d'Andris Nelsons.
Vous écoutez Radio Classique.
L'état-major interpelle les colonels Bourdeaux et Souviat. Le premier, c'est le commandant de la base aérienne 102, donc à Dijon. Le second, c'est le patron de la deuxième escadre de chasse de la même base de Dijon-Longvic. Ils sont appelés à faire d'un de leurs trois escadrons, maintenant équipés de Mystère 4, celui qui bientôt aura la charge d'assumer la responsabilité des démonstrations de la patrouille de France. Bourdeaux délègue cette tâche à Souviat, qui demande aux responsables des escadrons de désigner un leader pour commencer l'entraînement de cette future formation. Mais disons les choses, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme dans tout ça. Les pilotes n'ont qu'une idée, combattre. Dans leur esprit, ils n'ont pas été recrutés pour faire le spectacle. Certains viennent de connaître d'ailleurs leur baptême du feu lors de l'opération de Suez en octobre et novembre dernier. Bon, ils sont engagés pour se battre, hein. Ce sont des soldats. Aller faire le guignol, comme on dit dans l'armée de l'air, dans ce ciel acrobatique, ça les emballe pas, disons les choses. Et puis en cas d'échec, vous imaginez que leur carrière pourrait en être affectée. Donc l'état-major va devoir hausser le ton. Le colonel Souviat tape du poing sur la table pour que ses hommes finissent par s'exécuter. Et c'est à contre-cœur que les lieutenants Castagno, Parizeau et Capillon se retrouvent désignés d'office. Ils ont pour mission de commencer cet entraînement tout en assumant le travail opérationnel. C'est un agenda qui n'est pas simple, il faut arriver à tout coordonner. Très vite, l'équipe de Parizeau est mise hors jeu, parce que le quatuor fait preuve de mauvaise volonté, faut bien dire. Hein. Les formations de Castagnos et de Capillon finissent par se prendre au jeu, en revanche, et vont rivaliser d'audace, de quoi même déclencher des paris au sein de la base aérienne pour déterminer laquelle des deux aura l'honneur d'être patrouille de France. Castagnos a choisi un mode opératoire assez brutal. Faut dire qu'il impose à ses hommes un entraînement violent. Hein. Ils doivent composer avec des figures toujours plus près du sol et des accélérations extrêmement rapides qui mettent les organismes à rude épreuve, alors que Capillon, que j'ai eu l'honneur de connaître, lui est plus souple, sa formation semble plus agile. Le 16 avril 57, le verdict tombe, l'équipe de Capillon est donc choisie. Le groupe Castagnos est quant à lui gardé en réserve en cas de défaillance de l'équipe initiale, l'équipe première. Castagnos est intégré à l'équipe principale afin d'assurer à chaque représentation une démonstration en solo. Alors là, il passe le mur du son, hein, histoire d'ébouriffer un peu les spectateurs. Hein. Le premier meeting de la saison, c'était le 12 mai à Clermont-Ferrand. Et Capillon, que tout le monde appelle Cap, enfin quand je dis tout le monde, ses hommes l'appellent Cap, est assez inquiet parce qu'il sent bien que la formation n'est pas prête. Il n'est pas rare qu'un des pilotes, pendant le vol, ait du mal à tenir sa trajectoire. Et au début du mois de mai, les cinq pilotes sont déjà complètement épuisés par les entraînements intensifs qu'ils subissent jour après jour. Au-dessus de l'Auvergne, la démonstration n'est pas très convaincante. Or, il y a un événement qui approche à grands pas. C'est, comme tous les ans au mois de juin, le salon du Bourget, le sommet de l'aéronautique. Toutes les grandes nations qui sont là, qui sont présentes. Là, c'est pas le moment de faire une incartade. Le monde entier a les yeux rivés sur cette patrouille de France. Et au premier jour du salon, donc c'est un samedi, la patrouille va faire ce qu'elle peut, mais disons les choses, elle n'est pas à la hauteur. Et en descendant des différents cockpits, les Français voient la mine déconfite des mécaniciens. Sensation encore plus terrible. Les Skyblazers, hein, toujours les Américains, alors eux, ils sont carrément pleins de compassion. L'ex-leader de la patrouille de France, Georges Labeille, va se charger du débriefing. Il leur dit, c'est bien simple, hein, les gars, il faut tout reprendre. Capillon a compris le message, il met au point une nouvelle tactique qui consiste à travailler le plus bas possible, hein, sur le public, aller chercher le sol, comme on dit. Bref, ne plus respecter les consignes de sécurité des organisateurs. D'ailleurs, il va faire de ça un nouveau leitmotiv qui tient en trois mots, vite, près et bas. Autant dire que les consignes de sécurité sont limites là. Il va mettre ses consignes en application dès le lendemain. Et là, c'est un show absolument extraordinaire. C'est tellement beau que lorsqu'ils descendent de leurs appareils, cette fois, les Américains lèvent le pouce en direction des Français. Après ce succès, l'équipe est confirmée en 58. De quoi donner à tous ces hommes le temps de peaufiner, ce qui était une démonstration encore un peu balbutiante. Alors, ce qu'il faudrait maintenant pour pouvoir illuminer le ciel, ce sont des fumées capables de dessiner des arabesques au milieu des nuages. Les premiers à avoir utilisé ce procédé au mois de juin 57, ce sont les Italiens, avec des fumées blanches qui décrivaient un dôme dans l'azur. Ça avait fait très forte impression. En France, les chimistes et les techniciens de chez Matra et de chez Dassault se mettent au travail pour essayer d'équiper les Mystère 4 français. Et en septembre, à l'occasion d'un meeting qui a lieu au-dessus de Marseille, les 5 avions sont équipés. Ils sont censés projeter une fumée rouge, sauf que pendant le vol, les pilotes n'arrivent pas à déclencher le mécanisme. Et finalement, ce sont les mécaniciens de la patrouille de France qui vont eux-mêmes résoudre le problème. Il a fallu faire toutes sortes de réglages. Là non plus, je n'entre pas dans les détails. Et cette fois, la patrouille acrobatique de France, la PAF, comme on l'appelle à l'époque, peut s'appuyer sur son panache de fumée. Les figures sont très bien exécutées, le public est enthousiaste, les journalistes aussi. C'est magnifique. Et dans leur combinaison bleu-ciel, ils voient maintenant affluer le public, ces pilotes de la patrouille. Ils vont signer des autographes, ils vont faire des photos. Et lors du meeting de Marseille, on a la présence d'une certaine Jacqueline Auriol, qui est la belle-fille de l'ex-président de la République, n'est-ce pas ? Elle aussi pilote extrêmement bien, on l'a appelée la princesse de l'air. Il va maintenant falloir passer à la vitesse supérieure. On ne vole plus à 5, mais à 7. Alors ça veut dire que, d'abord ça fait venir plus de monde, c'est sûr, mais aussi ça multiplie les risques, bien sûr. Et les fumées ne vont plus simplement être rouges, mais bleu, blanc, rouge. Et la première fois que la patrouille de France survole les Champs-Élysées pour le 14 juillet et lance sa grande traînée tricolore dans le ciel, c'est donc le 14 juillet 1958. Ça, c'est un emblème national et on est en train de changer de régime au passage. En 59, on est maintenant sous la 5e République. L'équipe de Capillon s'étoffe encore et désormais ce sont 12 appareils qui vont épater tout le monde au salon du Bourget. Les Skyblazers désormais sont rejetés aux oubliettes. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, à l'époque c'est le général Jouhaud, s'exprime en ces termes. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai vu une patrie française susciter l'étonnement de tous les chefs d'état-major des aviations étrangères présents à cette manifestation et qui sont venus me présenter leurs compliments. Bon, ça y est, ça marche, elle est connue et reconnue, cette patrouille de France. Thank you. Le final de la 5e symphonie de Sibelius par l'Orchestre symphonique de Göteborg sous la direction de Santu Matthias Rouvani.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, au début des années 60, alors que maintenant la patrouille est devenue très connue, elle a des difficultés qui vont être des difficultés budgétaires. Déjà, on a réduit le nombre de mystères. Il y en a plus sept, il y en a cinq. C'est l'époque où on sort tout juste de la guerre d'Algérie, on veut faire des économies à tout prix. En 64, les pilotes commencent à s'impatienter pour savoir quel va être le sort de cette formation qui n'a somme toute que 10 ans, vous voyez. Et l'état-major va prendre une décision, c'est la patrouille de l'école de l'air installée sur la base de Salon de Provence qui désormais va prendre le relais. Et ce sera sur Fuga Magister, c'est un petit biréacteur qu'on reconnaît facilement parce que la dérive a une forme assez particulière, en papillon. Hein. C'est cet appareil qui équipe les écoles de futurs pilotes de chasse français. Donc autant dire que c'est pas tout à fait des néophytes quand même qui se présentent pour le premier meeting de la patrouille dans sa nouvelle formule. On est là le 11 avril 1964. Le leader, c'est Grand Théry. À ce stade, la patrouille de France devient littéralement professionnelle. Ça devient un corps à part entière constitué non pas de pilotes d'une même escadre, non plus de moniteurs d'une même école, mais à partir d'une sélection des meilleurs pilotes de chasse en provenance des différentes escadres. Voilà, cette fois, c'est créé, c'est fait. On est en 1964.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Avec ces fougas magistères, les pilotes désormais vont éblouir le monde et enchaîner ces formations en patrouille, hein, en diamant, flèche, fusée, concorde, canard, etc. Des figures de plus en plus soignées, spectaculaires, l'éclatement bombe, il faut avoir vu ça au moins une fois dans sa vie, c'est quand même assez bluffant, je dois dire. En formation serrée, les pilotes de la patrouille s'élancent vers le ciel, passent sur le dos, déclenchent leur fumigène, puis plongent vers le ciel dans une espèce de verticale absolument invraisemblable. Et là, finalement, la formation éclate en parapluie. C'est très beau, mais c'est risqué. Le 4 juin 67, pendant cette figure, un des pilotes, le capitaine Didier Dutoit, va s'écraser. Première victime de la patrouille de France. Je dis première victime, il y en aura d'autres, hein, car c'est vraiment très dangereux ce qu'ils font. 12 victimes au total, hélas, vont être déplorées par la patrouille de France, qui dans les années 70 enchaîne les succès. Les invités de prestige s'immiscent dans l'univers des pilotes de la patrouille. Hein, les plus joyeux compagnons du monde qui font la fête comme des gosses, raconte le chanteur Julien Clerc, qui a fait un vol. Léon Zitrone a commenté un jour en direct pour la télévision le show des As français, sa voix résonne. Et moi qui croyais juste ici que la plus belle conquête de l'homme était le cheval, eh bien, mesdames et messieurs, j'en doute désormais et je ne suis pas loin d'affirmer aujourd'hui que l'avion talonne de près l'élégant quadrupède. Ça, c'était le style de Léon Zitrone. Désormais, le Fuga est un peu vieillissant. Il va falloir penser au successeur. En 16 ans, la patrouille équipée du Fuga a totalisé 65 000 heures de vol et effectué 800 présentations qui ont été effectuées par 80 pilotes différents. Elle évolue désormais sur Alpha Jet, de construction franco-allemande, l'Alpha Jet, et qui évolue à 8 appareils à partir de 1982. La patrouille de France est maintenant, disons-le, l'ambassadrice du pays à travers le monde entier. Et il y a ces couleurs bleu, blanc, rouge qui viennent éclater, se disperser, se croiser, fourmiller dans tous les ciels de la planète avec ses pilotes d'élite, la crème de la crème, diraient les Anglais, n'est-ce pas, qui exécute cette chorégraphie réglée au millimètre près. Vous savez comment on surnomme la patrouille de France dans l'armée de l'air? Mais si vous ne le savez pas, vous allez le savoir désormais. La Grande Dame.
Vous écoutez Radio Classique.
Retour sur, j'allais dire, le plancher des vaches, mais enfin notre terre à tous. Merci beaucoup à Aymar de Chaunac et bonjour à Christian Morin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. J'ai un regret avec la patrouille de France.
Oui.
Je les ai rencontrés plusieurs fois, les différentes équipes, bien sûr. Ils venaient à une époque à Saint-Jean-de-Luz. Alors, dans la baie Saint-Jean-de-Luz, voir la patrouille de France, magnifique, avec Michel Alliot-Marie à l'époque. Bref, et on m'a proposé un jour de faire un vol avec eux. J'ai dit, mais oh, avec joie, j'étais emballé. Et puis, ça a traîné, je ne m'en suis plus occupé. Je le regrette beaucoup aujourd'hui.
Vous savez, moi j'ai fait, c'était pas avec la patrouille de France, mais j'ai fait un vol de démonstration acrobatique, à l'époque où je travaillais pour l'armée de l'air. Et ce n'est pas mon meilleur souvenir.
Ah, bon.
C'est très très impressionnant, ça tourne dans tous les sens, vous savez plus où vous êtes. Et même moi qui n'ai pas le mal de mer, je vous avoue que j'étais pas tout à fait en forme en descendant de l'appareil.
Bien, bon écoutez, en tous les cas c'est une recommandation que nous donne Franck Tom Cruise, spécial ce matin. Et puis on vous retrouve cet après-midi avec, alors on change de registre, avec un gastronome, Grimaud de la Reynière.
Ah oui, formidable.
La cuillère à la main.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Aujourd'hui est un jour important pour environ 2200 personnes qui fêtent leurs 65 ans en France métropolitaine et en Outre-mer. À tous ceux qui ont déjà franchi le cap des 65 ans et à ceux qui célèbrent cet anniversaire, vous entrez dans la zone à risque. Ça y est, j'ai toute votre attention. Il faut savoir que plus de 90% des personnes de 65 ans et plus sont déjà porteuses du virus responsable du zona. Et le principal facteur de risque, c'est tout simplement l'âge. Alors, si vous avez 65 ans ou plus, c'est le bon moment pour en parler avec votre médecin ou votre pharmacien. N'attendez pas, faites-le dès aujourd'hui. Plus d'informations sur demain-santé.fr.
Ce message de sensibilisation vous a été présenté par le laboratoire GSK.
Audi, sans compromis. En ce moment, le meilleur du design et de la technologie Audi hybride rechargeable est plus accessible que jamais. Jusqu'au 30 juin, découvrez la nouvelle A5 Avent ou encore la nouvelle A3 Sportback à partir de 390€ par mois sans apport. Et profitez de son autonomie totale de plus de 900 km. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le Palais de l'Infortune, c'est le nouveau roman de Donna Leon, la reine du polar vénitien. Un soir d'hiver, un homme est retrouvé noyé près du prestigieux Palazzo Zaffo dei Leon. Pour résoudre l'affaire, le célèbre commissaire Brunetti va devoir se plonger dans les heures sombres de l'Italie et réveiller les fantômes du passé. Le Palais de l'Infortune de Donna Leon, en poche aux éditions Point.
Les Étoiles du Classique à Saint-Germain-en-Laye reviennent pour une 4e édition éclatante et pleine de découvertes. Le plus grand tremplin solidaire d'Île-de-France invite 200 jeunes talents pour 10 concerts inédits. Symphoniques, jeunes publics, musique de chambre et de grandes soirées thématiques autour de la voix, du piano, du violon, de la musique baroque et du jazz. Découvrez les futures grandes stars de demain, du 22 au 30 juin. Réservé sur lesétoilesduclassique.fr.
La Grande Ourse brille dans le ciel d'Aix-en-Provence et sur la scène du Théâtre de l'Archevêché avec la Callisto, l'opéra baroque de Cavalli. Dirigé par le chef Sébastien Dossé, l'ensemble Correspondance sublime une musique céleste qui chante le mythe ovidien de la nymphe Callisto, séduite par Jupiter puis transformée en étoile. Une fresque stellaire sur les affres de l'amour, mise en scène par Jetske Mensen. À retrouver du 7 au 21 juillet au Festival d'Aix-en-Provence.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage, témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
Observons un bricoleur à tête froide dans son jardin. Il cherche la fraîcheur durant la saison chaude. Et sur Mano Mano, il trouve les parasols, clim et piscine pour enfin les arder tout l'été. C'est ça, l'effet Mano Mano.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr.
Dans un instant, Tous Classiques avec Christian Morin.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
midi, tous classiques, avec Christian Morin sur Radio Classique.
Eh bien, ce matin, nous allons commencer avec un Italien. Un Italien en musique, bonjour, ou rebonjour. Un Italien qui s'appelle Arturo Michelangeli Benedetti. Il est né à Brescia et il est mort à Lugano en 1995. Alors, c'est un des pianistes italiens les plus importants de son siècle. Le parcours est assez inattendu. Il commence par le violon, puis à l'âge de 10 ans, à l'âge de 3 ans et à l'âge de 10 ans, il va rentrer au conservatoire de Milan. Il passe plusieurs concours, il se fait remarquer, notamment pour le concours Isaïe à Bruxelles. Arthur Rubinstein, qui faisait partie du jury, remarquait quand même que sa technique était déjà parfaite. Donc, point de repère très intéressant. Un an plus tard, Arturo Benedetti Michelangeli remporte le premier prix du concours de Genève. Le président du jury, le pianiste français Albert Cortot, le rend célèbre en le désignant, écoutez bien, comme le nouveau Liszt. Et Sergiu Celibidache, ça c'est encore plus important, abandonne le piano du jour au lendemain après l'avoir entendu pour la première fois. Vous allez l'entendre peut-être pour la première fois. Nous allons entendre une interprétation de cette Mazurka opus 33, numéro 4 de Chopin, par ce pianiste, donc très intéressant, avec un caractère un peu particulier, fantasque, dirons-nous. Je vous raconterai deux ou trois anecdotes ensuite, mais écoutons-le d'abord jouer la Mazurka opus 33, suivie de la Mazurka opus posthume 67, numéro 2. Thank you. Chopin avec ici la Mazurka opus posthume 67 numéro 2, précédée par la Mazurka numéro 4, Arturo Michelangeli Benedetti. Là, vous l'avez entendu, je vous disais que c'est un pianiste assez exceptionnel, vous l'avez entendu, il était réputé comme un pianiste d'une qualité technique irréprochable, touché très raffiné, on l'a apprécié à l'instant, et sa sonorité dense était pleine, restait quand même, sont restées légendaires. Alors, ses œuvres de chevet, c'était celle de Ravel, Debussy, Chopin, on vient de l'entendre, Schumann, Beethoven, la version du 4e concerto de Rachmaninoff reste une référence aujourd'hui qui est comparable, écoutez bien, à celle de Rachmaninoff lui-même. Et ses chefs d'orchestre de prédilection, c'était Bruno Walter, Sergio Celibidache, donc qui a arrêté le piano parce qu'il a entendu Michelangeli, Benedetti, et Carlo Maia Giulini, qui le dirige ici avec le Symphonique de Vienne, enregistré en musique Verein de Vienne en septembre 1979. Les cadences sont de Beethoven et on écoute le final du concerto pour piano et orchestre numéro 1 avec ce pianiste donc installé au piano. Je me retire de la scène, l'orchestre est installé.
Thank you.
Arturo Michelangeli Benedetti avec le symphonique de Vienne, Carlo Maia Giulini, ils ont enregistré ensemble en public et en vidéo à Vienne, donc à la fin des années 70, les concertos pour piano 1, 3 et 5, l'Empereur de Beethoven donc, et c'est un pianiste dont on évoque aujourd'hui ce matin les 30 ans de sa disparition. Il nous a quittés le 12 juin 1995. Pour terminer sur lui, Michelangeli ne jouait que, alors écoutez bien, son caractère était particulier, il ne jouait que lorsque les conditions étaient réunies pour donner le meilleur de lui-même. Il a annulé d'ailleurs nombre de ses concerts, ça lui a posé des problèmes, parfois même en plein milieu du concert, parce que le piano n'allait pas du tout, la température lui convenait pas, ou l'inspiration n'était pas au niveau qu'il souhaitait. Et puis alors, il en était venu d'ailleurs à se déplacer avec son propre piano, qu'il savait parfaitement démonter et remonter lui-même. Et il faut dire que c'était un amateur de mécanique aussi, mais surtout du côté des Ferrari. Alors il avait plusieurs Ferrari, il connaissait très très bien les moteurs Ferrari, dont il appréciait la vitesse, comme en pratiquant également le ski. C'était un Don Juan, enfin bon, personnage fantasque, mais quel pianiste! Peut-être avec ce côté un peu sorcier, comme dirait Manuel de Falla. C'est toujours Carlo Maria Giulini qui dirigeait l'orchestre Philharmonia avec l'Amour sorcier, la danse rituelle du feu de Manuel de Falla, qui fait partie, c'est le trophée d'ailleurs cette semaine, de ce coffret Warner de 60 CD des enregistrements de Giulini restaurés à partir des bandes d'origine par les studios Art et Son à Annecy.
Améliorez votre expérience d'écoute de Radio Classique grâce au DAB+. Bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle et de données plus complètes sur la programmation musicale. Plongez au cœur de vos chefs-d'œuvre préférés sans interférence ni grésillement. Une radio gratuite en qualité numérique, sans abonnement ni connexion Internet. Radio Classique vous accompagne en haute définition grâce à la technologie DAB+. Plus d'informations sur dabplus.fr.
Connaissez-vous le podcast « Les histoires en musique » ? Laissez-vous enchanter. Élodie Fondacci vous raconte des histoires sur les plus belles musiques classiques.
Scheherazade s'interrompit et jeta un coup d'œil vers la fenêtre. C'est l'aube, sire.
Retrouvez Scheherazade et bien d'autres histoires en musique d'Élodie Fondacci sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Attention, événement. Radio Classique vous attend pour son grand concert d'été. Un festival d'émotions avec les chefs-d'œuvre des grands compositeurs. Venez écouter le meilleur du classique
avec la soprano Angélique Boudeville, la pianiste Chani Di Luca et l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Marc Leroy Calatayude. Le grand concert d'été de Radio Classique, animé par Jean-Michel Duez, les 20 et 21 juin au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservé dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Retrouvez le grand concert d'été de Radio Classique avec Échiquier Gestion Privée. Échiquier Gestion Privée, ensemble, faisons grandir votre patrimoine.
Cyrus Cérès, gestion de fortune, orchestre votre patrimoine en toute harmonie. Grâce à notre approche en architecture ouverte, votre patrimoine devient une œuvre qui allie sérénité, performance et héritage familial. Ensemble, composons une symphonie patrimoniale qui résonnera aujourd'hui et demain. Cyrus Cérès, la gestion de fortune depuis 1989.
Et si chaque voyage devenait extraordinaire ?
DS Automobile présente
le Weekend DS Collection Jules Verne. Du vendredi 13 au dimanche 15 juin, embarquez dans un univers avant-gardiste à bord de DS7 Collection Jules Verne. Profitez de ces technologies de pointe comme la conduite semi-autonome DS Drive Assist et succombez à ses finitions haut de gamme. Prenez rendez-vous en DS Store sur dsautomobile.fr.
DS Automobile.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Les plus belles choses arrivent souvent à la dernière minute, comme le but décisif du match. Ou cette offre qui te change l'été.
Costa vous sauve à la dernière minute. Réservez votre croisière d'été de 8 jours à partir de 699 € par personne. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 30 juin. Info en agence ou sur costacroisiere.fr. Costa.
Audi, sans compromis. En ce moment, le meilleur du design et de la technologie Audi hybride rechargeable est plus accessible que jamais. Jusqu'au 30 juin, découvrez la nouvelle A5 Avent ou encore la nouvelle A3 Sportback à partir de 390 € par mois sans apport. Et profitez de son autonomie totale de plus de 900 km. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Dans le cadre inédit des Jardins La Française du Château, la 14e édition du Festival de Chambord ouvrira avec quelques-unes des plus célèbres pages de la musique classique. Rameau, Grieg, Ravel ou encore Philippe Glass par l'Orchestre National d'Île-de-France, accompagné de la pianiste Vanessa Wagner et de la soprano Angélique Boudeville. Vivez ce moment d'exception le dimanche 29 juin à Chambord, en partenariat avec Radio Classique. Informations et réservations sur chambord.org.
Benjamin Fourmont, président de Champagne Joseph Perrier.
Depuis 1825, notre maison familiale de Châlons-en-Champagne élabore avec passion des cuvées que le temps façonne dans nos caves gallo-romaines. 200 ans que nous avons à cœur d'assembler de grands terroirs de la Champagne pour que nos cuvées royales rayonnent à travers le monde.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Le PEA Fortunéo a été élu meilleur plan d'épargne en action 2025. Fortunéo, j'aime ma banque. Source Avenue des investisseurs, février 2025. Détails de l'étude et conditions tarifaires sur fortunéo.fr. L'investissement en bourse présente un risque de perte en capital. Et avec Fortunéo, retrouvez les voix de l'économie avec Stéphane Pedrazzi à 7h15 dans la matinale de Radio Classique.
Jusqu'à midi, Christian Morin sur Radio Classique.
Vous n'êtes pas encore totalement prêt pour le 100% électrique ? Découvrez Kia Niro Hybrid, le crossover familial et économe en carburant. Et jusqu'au 30 juin, profitez-en immédiatement à partir de 297 € par mois sans apport.
Kia Niro Motion Hybrid hors option. LLD 49 mois 40 000 km. 49 loyers de 297 € TTC hors assurance et prestations facultatives. Offre aux particuliers si accord Kia Finance. Garantie 7 ans. Conditions sur kia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Kia. Du mouvement vient l'inspiration.
J'avais besoin d'aide auditive, mais je savais pas trop chez qui aller, à qui faire confiance.
Eric nous parle de son audioprothésiste Audica.
Un ami m'a recommandé Audica. Leur expert m'a tout de suite mis à l'aise. Il m'a trouvé une solution parfaite pour moi et pour mon budget. En plus, il y a le suivi sur mesure, partout en France. Ça, c'est bien. Hein.
Comme Eric, choisissez l'expert de l'audition depuis 45 ans. Prenez rendez-vous avec un audioprothésiste diplômé d'État Audica pour un bilan auditif complet et gratuit. Audica, expert et à votre écoute. Bilan non médical. Dispositif médical.
16 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis. C'est aussi le nombre de